L'éducation populaire au centre du projet politique de l'ESS. L'Institut Montparnasse est un think and learn tank et une de nos missions est de réfléchir à l'avenir du mutualisme. Nous avons eu l'occasion d'accueillir une grande diversité d'invités sur nos podcasts. Parmi ceux-ci, des mutualistes bien sûr, mais aussi des grands témoins de l'économie sociale et solidaire, des penseurs, des universitaires, des hommes politiques de France et à l'international. L'ESS se veut un terrain d'innovation face aux problématiques sociales, un espace de débat autour des questions de société. Et dans cet engagement, nous allons chercher des acteurs de la société civile, des territoires, mais aussi des professionnels afin de relayer les bonnes pratiques et les idées inspirantes. C'est dans le contexte d'un cycle de conférences autour de l'éducation populaire que l'Institut Montparnasse donne aujourd'hui la parole à Béatrice Delpech, qui est intervenue pour une matinée sur l'éducation populaire au centre du projet politique de l'ESS. Béatrice Delpech, vous êtes directrice générale adjointe à NRCOP. Je suis Florian Béton et vous écoutez le podcast « Bâtissons des futurs solidaires » de l'Institut Montparnasse. Béatrice Delpech, bonjour.
Bonjour.
Premièrement, première question, NRCOP, c'est quoi ?
Alors NRCOP, c'est un réseau de 11 coopératives sous forme SIC qui agissent et militent dans les territoires pour une transition énergétique solidaire, citoyenne et locale. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, ça se manifeste par trois actions distinctes. Une première activité historique qui est la fourniture d'énergie renouvelable. Donc nous fournissons à 100 000 clients une énergie renouvelable produite en France. On a une deuxième activité qui est la production d'énergie renouvelable. On l'a toujours été et on l'est devenu un peu massivement depuis 2 ans. L'idée, c'est d'accélérer la part du renouvelable dans le mix énergétique français. Et une troisième activité qui est là aussi historique, qui est celle d'accompagner à la maîtrise des usages. Donc on accompagne nos clients, mais aussi le grand public, puisqu'on a un certain nombre d'outils qui sont disponibles à tout le monde pour maîtriser leur usage dans l'objectif de faire avancer la sobriété.
Alors sur ce sujet justement, quel lien vous faites entre le projet d'NRCOP et l'éducation populaire ?
L'éducation populaire, elle est au cœur du projet d'NRCOP. On a été créé il y a maintenant un peu plus de 18 ans au moment où l'électricité s'est ouverte sur les marchés à la concurrence. Sous l'impulsion de gens qui étaient assez militants, c'était des gens qui venaient de Greenpeace, de Biocop, des Amis de la Terre, de la Nef, qui avaient cette double intuition, d'une part que l'énergie est un bien commun qu'il ne faut pas laisser aux aléas du marché, et une autre intuition qui est que, c'était déjà vrai il y a 18 ans, c'est encore plus vrai aujourd'hui, on est tous très dépendants et dépendantes de l'énergie, mais schématiquement, l'individu moyen a absolument aucune idée ni de comment ça se produit, ni de comment fonctionne le marché, et ça a un petit peu évolué, c'est moins vrai aujourd'hui qu'il y a 18 ans, mais comment est-ce qu'on maîtrise nos usages ? Et donc il y avait cette idée de préserver un bien commun en inventant un modèle de gestion non capitaliste de l'énergie, et d'autre part d'incapaciter les citoyens et les citoyennes pour leur permettre de reprendre le pouvoir sur quelque chose qui est au cœur de leur vie quotidienne et qui leur est absolument indispensable.
Comment la coopérative encourage-t-elle l'implication des citoyens dans la gestion et la consommation responsable de l'électricité ?
Alors déjà, on promeut un modèle assez original qui est le modèle de la gouvernance citoyenne. Donc, c'est-à-dire que quand on appelle des citoyens et des citoyennes à nous rejoindre, on ne les appelle pas simplement aux capitaux de nos projets, on les appelle à rentrer à la gouvernance de nos projets. Donc ça veut dire concrètement, je vais prendre l'exemple d'une communauté énergétique citoyenne, on va aller développer un projet de production renouvelable sur un territoire et on va mettre autour de la table les hommes et les femmes qui habitent ce territoire, mais aussi les entreprises qui y sont implantées, les collectivités territoriales qui l'animent, pour qu'ensemble, ce collectif, à l'échelle territoriale, se pose les questions de quelle énergie ils veulent produire, où ça dans leur commune par exemple, pour alimenter quel type de bâtiment, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur surplus d'électricité, à qui ils vont le vendre, à quel tarif, pour alimenter quel type de projet. Donc ça, c'est une première manière d'encourager la participation citoyenne dans nos projets. Et puis j'ai envie de dire, statutairement, nous sommes un réseau de 11 SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui sont des coopératives qui ont peut-être deux particularités. La première, c'est de poursuivre un but d'intérêt collectif. Et la seconde, c'est ce qu'on appelle le multisociétariat. Aussi bien dans une SCOP sont associés de la coopérative les salariés, et bien dans une SIC sont associés de la coopérative toutes les parties prenantes du projet. Ça veut dire que pour nous, par exemple, l'NRCOP nationale, on va associer à la gouvernance bien évidemment les salariés d'NRCOP, mais également les producteurs auprès desquels on achète de l'électricité, les partenaires avec lesquels on monte des projets, les collectivités locales, les porteurs du projet, ceux qui l'ont institué initialement, vraiment toutes les parties prenantes qui sont intéressées par le développement de nos projets. Et donc ça, c'est une autre manière d'associer chacun et chacune à la gouvernance de notre projet.
Alors NRCOP a dû faire face à un défi spécifique dans le secteur de l'énergie. Est-ce que l'éducation populaire a été un moyen de relever ce défi et est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Bien sûr. ENERCOP est historiquement et identitairement assez engagé contre le nucléaire. Nous, on inscrit notre action dans les pas du scénario développé par l'association Negawatt, c'est-à-dire que nous, on rêve d'un mix énergétique 100% renouvelable qui repose sur énergie renouvelable, sobriété des usages et efficacité. Donc, on s'inscrit vraiment complètement dans cette ligne-là. Et pendant très longtemps, en l'occurrence jusqu'en 2023, ENERCOP était le seul fournisseur d'électricité qui ne se fournissait pas à l'énergie d'origine nucléaire, par choix politique. En 2021, est arrivée une crise sans précédent sur les marchés de l'électricité qui ont fait flamber les prix, mais vraiment à des niveaux jamais atteints, et qui ont mis en difficulté notre survivance même. Et donc, on s'est retrouvé confronté à ce paradoxe qui est à la fois une magnifique illustration de l'absurdité du système du marché de l'électricité tel qu'il est construit aujourd'hui, qui est que le seul endroit où on pouvait avoir accès à des électrons à un prix connu d'avance et stable, ne fluctuant pas avec le marché, c'était l'énergie d'origine nucléaire. Ce qui est sans doute la preuve ultime de l'absurdité du système. Et donc, du coup, on s'est retrouvé confronté à cette question de se dire est-ce qu'on ne va pas être obligé d'aller nous aussi recourir à l'énergie nucléaire ? Sachant que si on n'y va pas, très probablement, on va mettre la clé sous la porte parce qu'un mégawattheure qu'on achetait 60 ou 90 euros avant la crise, il a pu, sur les marchés du court terme, atteindre plusieurs milliers d'euros. Donc, évidemment, ça change un tout petit peu le modèle économique. Donc, on a pris d'abord toutes les mesures possibles avant d'en arriver à cette extrémité-là. On a augmenté nos tarifs, on a fermé les souscriptions, on n'a plus pris de nouveaux clients. Et puis, ça ne suffisait pas. Et donc, on s'est retrouvé dans cette situation de se dire est-ce qu'on ne va pas être obligé de recourir, nous aussi, à cette énergie d'origine nucléaire. Et donc, on s'est dit que cette décision, elle était trop importante, elle impactait trop l'identité même de notre coopérative pour qu'on puisse la prendre sans nos sociétaires. Donc, on a initié un temps d'échange et littéralement de montée en compétence de nos sociétaires. Pendant plusieurs mois, on a proposé différentes choses pour leur permettre de comprendre les enjeux. Et donc, l'enjeu, il était simple, c'était ben, si on n'y va pas, dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, on va mourir, on va mettre la clé sous la porte. Dans le meilleur des cas, on ne mourra peut-être pas, mais du coup, on n'aura absolument plus aucune capacité financière de faire autre chose que d'acheter de l'énergie et de la fournir à nos clients. Et ça, vous allez me dire, est-ce que ce n'est pas tout le but d'un fournisseur d'électricité ? C'est peut-être le but d'un fournisseur d'électricité, mais pour nous, ça n'est pas une fin en soi, ça c'est un moyen d'action. Je l'ai dit tout à l'heure, on est des sociétés coopératives d'intérêt collectif, on poursuit un but d'utilité sociale et notre but c'est de contribuer à la transition énergétique. Si on se contente d'acheter de l'électricité et de l'injecter dans les tuyaux, bon, même si on a mis de l'électricité renouvelable, la force de frappe et de transformation est faible. Donc l'idée qui a émergé c'était de se dire ok, on va faire une grosse entorse à notre projet philosophique, on va aller chercher de l'énergie à l'arène, à l'énergie d'origine nucléaire pour récupérer une respiration économique et pour avoir les moyens de développer des projets qui vont être vraiment utiles pour la transition. Et si on fait ça, il faut être très ambitieux avec ce qu'on veut faire. Et donc, on a pris le tournant stratégique de se dire, on va faire ça et on va devenir beaucoup plus massivement producteur d'énergie renouvelable que ce qu'on a fait jusqu'à présent. On l'avait toujours été petitement, mais là, on a décidé de le faire massivement. Et donc, on a ouvert plusieurs mois d'échanges avec nos sociétaires. Donc, on a fait beaucoup de production de contenu pour expliquer comment fonctionnaient les marchés, comment se faisait-il que nous, alors qu'on achète en contrat direct à des producteurs d'électricité renouvelable en France, on était quand même impacté par cette flambée des marchés, parce que ce n'est pas très intuitif. Le prix du soleil, on ne comprend pas très bien comment il peut varier. Donc, il a fallu expliquer vraiment, s'assurer que tout le monde comprenait bien comment fonctionnait le marché et pourquoi ça nous impactait. Expliquer le paradoxe dans lequel on se trouvait, donner à voir ce qu'on pourrait faire si on faisait cette entorse à notre philosophie initiale, à quoi ça allait servir, est-ce que les avantages induits allaient valoir cette entorse à la philosophie initiale du projet. Et donc, on a mené plusieurs mois d'échanges en présentiel, on a organisé des rencontres un peu partout sur le territoire. C'est l'intérêt d'être un réseau de coopératives, c'est qu'on a un véritable ancrage territorial. On a fait des rencontres en webinaire également. On avait déjà un réseau social interne aux sociétaires d'ENERCOP qui vivotait gentiment. Et là, tout à coup, ben, les sociétaires s'en sont saisis. En fait, ils ont été très mobilisés. Ils ont échangé entre eux. C'était génial parce que c'est de l'échange entre pairs. C'est ce qu'il y a toujours de mieux. Hein. Les gens sont venus confronter leur compréhension de la problématique, leurs enjeux, leurs opinions, souvent très tranchées. On a des sociétaires assez militants. Et donc, à peu près 6 mois comme ça d'échanges assez riches entre l'équipe permanente, les administrateurs, les sociétaires. Et puis, on est arrivé à l'Assemblée Générale. On a soumis une résolution qui a été adoptée par nos sociétaires et on a décidé de recourir temporairement et la mort dans l'âme à l'énergie d'origine nucléaire. Et puis, on a fait ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que ça nous a permis effectivement de retrouver de la capacité financière et donc on a investi ultra massivement dans la production d'énergie renouvelable et donc on contribue activement à verdir le mix énergétique français.
C'est un très bel exemple d'intégration de toutes les parties prenantes à la prise de décision dans une entreprise. Alors aujourd'hui, quels sont les moyens utilisés par Enercoop pour maintenir l'engagement et la participation de ces 65 000 sociétaires ?
Alors, on fait beaucoup et on fait pas assez en même temps. C'est-à-dire qu'on est très ambitieux. On a réinscrit la volonté de garder nos sociétaires au cœur de notre projet dans nos axes stratégiques. Donc, c'est vraiment une volonté forte. Et en même temps, comme on est assez critique, on n'arrête pas de se dire on fait pas assez. On fait quand même des choses. Alors, on est 65 000 sociétaires en tout. Mais là, c'est si je vous prends le réseau dans son ensemble des 11 coopératives. Il y a 25 000 sociétaires de Enercoop dite nationale, qui est le fournisseur d'électricité. Et les 40 000 restants se répartissent dans les 10 Enercoop locales. Presque chaque Enercoop a une personne chargée de l'animation de la vie coopérative. À Enercoop National, on a carrément une petite équipe dédiée à ça. Et puis, on fait des choses, donc chacun à destination de nos propres sociétaires. Et puis, on fait aussi des choses en réseau, parce qu'il y a des questions qui concernent l'ensemble des sociétaires, quelle que soit la coopérative à laquelle ils ont, dans laquelle ils ont pris des parts sociales. Donc, on a spécifiquement l'attention de se dire, là, avec le tournant stratégique qu'on a pris en 2022 et le développement de la production de manière massive, on a quand même un peu changé notre cœur de métier. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour emmener nos sociétaires avec nous ? Et donc, on a à cœur de se dire qu'il faut bien qu'on prenne le temps de leur expliquer ce qu'on fait, de leur montrer comment ça marche, de leur donner accès au-dessous des cartes pour qu'ils continuent à être très en phase avec le projet. Donc, on a cette attention et les chargés de vie coopérative sont là pour rappeler aux différents métiers qui travaillent qu'ils doivent aussi consacrer du temps. Ils ne développent pas de l'énergie renouvelable dans n'importe quelle entreprise, ils le font dans une coopérative, donc ils le font pour des sociétaires aussi. Donc, ce temps d'explication, donc y a ça, c'est un moyen qu'on développe beaucoup. On organise pas mal de rencontres avec nos sociétaires, en webinaire et en présentiel. Des rencontres, là très récemment à Paris, on a fait une rencontre à la Gaîté Lyrique, parce que c'est un lieu culturel qu'on alimente en électricité. Et donc, ça a été l'occasion de leur parler des partenariats culturels. Quel rôle on a en tant que coopérative ? Nous, on a vraiment un objectif de transformation sociale un peu plus vaste que la simple fourniture d'électricité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de faire des partenariats culturels ? Donc ça, c'est toujours des moments un peu sympas. Sur des sujets sociétaux, on a pu aussi tenir un webinaire sur la place des femmes dans le monde de l'énergie, qui est un peu une portion congrue. Et donc, on propose beaucoup de support et d'échanges à nos sociétaires. Et puis, peut-être dernière chose, on a une activité de plaidoyer. On travaille pour faire évoluer le cadre réglementaire qui s'applique à nos activités. Et ça, on l'a toujours fait un peu en partenariat. Il y a assez peu de choses qu'on conduit tout seul dans notre coin. On fait avec des partenaires institutionnels. Par exemple, pour défendre les communautés énergétiques citoyennes dont je parlais tout à l'heure, on va avoir un plaidoyer qu'on va apporter avec le CLER, Réseau pour la transition énergétique, et aussi avec Énergie Partagée, qui est un réseau qui promouvoit ce mode d'organisation-là. Mais en fait, nous, on a cette force géniale d'avoir 65 000 sociétaires. Donc très régulièrement, on leur propose de s'associer à nos campagnes de plaidoyer. Quand on a essayé d'intervenir dans la loi sur l'accélération des énergies renouvelables, par exemple, on a proposé à nos sociétaires un kit de mobilisation de leurs députés. Donc ceux qui le souhaitaient pouvaient trouver clé en main un courrier adressé à son député présentant les différentes actions ou les différents amendements qu'on proposait de porter dans la loi. Et donc ceux qui le souhaitent peuvent s'en saisir et contribuer très directement à faire avancer nos actions de plaidoyer.
Tout à l'heure, quand je vous ai demandé par rapport aux défis spécifiques que vous aviez relevés, vous m'avez dit on a investi massivement dans le renouvelable. La question que j'ai envie de vous poser, c'est comment votre coopérative envisage-t-elle l'avenir de l'énergie coopérative en France ?
Alors, pour nous, c'est vraiment l'avenir. Nous, on est très, très militants d'une gestion décentralisée et démocratique des projets liés à l'énergie. Pour nous, aujourd'hui, on voit bien l'impasse d'une énergie qui est gouvernée de manière ultra-jacobine, très centralisée et sans aucune participation citoyenne. C'est un peu la direction que prend le gouvernement avec son projet de relance du nucléaire, qui est par définition l'énergie moins propice à la gouvernance démocratique, puisque tout est très opaque, on se confronte très rapidement à du secret défense, enfin, les citoyens ne sont pas du tout associés au projet. Donc nous, on pense qu'il faut faire exactement l'inverse. Donc l'avenir idéal, ce serait qu'on réussisse à développer des communautés énergétiques citoyennes partout sur le territoire, qu'on arrive à développer des projets d'autoconsommation collective, qu'on arrive à déployer des projets dans lesquels vraiment les citoyens, les entreprises, les collectivités ensemble dessinent les besoins en énergie qui sont les leurs et comment elles font un partage de la valeur autour de la richesse qu'elles vont créer en créant des projets de production d'énergie renouvelable.
Et enfin, comment Enercoop espère contribuer à la transition énergétique à long terme en France ?
Alors, on a des objectifs de part du renouvelable dans le mix énergétique français qui sont fixés par l'Union européenne et on est très loin de les atteindre. Et on a en plus des politiques qui, ce n'est pas le cas uniquement de ce gouvernement en place, hein, globalement, il n'y a jamais eu vraiment de politique très ambitieuse pour développer le renouvelable dans ce pays, ben nous, on fait notre part. Donc, développer des projets de production d'énergie renouvelable, ça veut dire contribuer à verdir le mix énergétique français. Donc ça, c'est une contribution assez directe. Et puis, on va aussi, en tant que... On se revendique coopérative radicale de la transition. On n'est pas tout seul. On a contribué à la création d'un collectif qui s'appelle les Licornes, avec deux O. En clin d'œil aux licornes avec un seul O, ces sociétés non cotées en bourse mais valorisées plusieurs milliards de dollars, des sociétés que Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie et des finances, entend développer partout. Quand on regarde un peu ce qu'elles font, on s'aperçoit qu'en règle générale, elles ne payent pas leurs impôts en France et la plupart d'entre elles ont des activités très fortement émettrices de gaz à effet de serre. Donc nous, on ne veut pas de ce modèle-là. Nous, on veut un modèle de licorne avec deux O, des coopératives qui proposent de la gestion non capitaliste, désintéressée de biens et de services fondamentaux et centraux pour les citoyens et pour les citoyennes. Donc ça, c'est un engagement sociétal au-delà du marché de l'énergie, mais ça contribue à la transition et ça contribue à une transition écologique et à de la justice sociale.
Merci énormément, Béatrice Delpech. Alors, une dernière question, un livre, un film, un podcast, est-ce que vous auriez une recommandation pour nos auditeurs pour bâtir un futur solidaire ou un guide pour s'aventurer vers l'avenir ?
Alors, c'est une question difficile, on a beaucoup, beaucoup d'exemples. Très spontanément, le podcast qui me vient en tête, c'est Le Code à changer sur France Inter. J'ai oublié le nom du journaliste. Bref, Le Code à changer sur France Inter, c'est une émission qui décrypte la place du numérique dans nos vies. Et je la trouve très intéressante parce qu'elle vient interroger des choses qui nous paraissent évidentes sur la place que prend le numérique dans nos vies. Et il y a un épisode, par exemple, où il commence son épisode en parlant de sa grand-mère qui veut aller au Louvre après le Covid. Et on ne peut plus aller au Louvre en achetant son billet sur place, c'est terminé en fait. Il faut l'acheter via une appli. Qu'est-ce que ça a comme impact en fait dans notre vie quotidienne, dans notre faire ensemble et comment est-ce qu'on pourrait faire autrement ? Je trouve que c'est un podcast très instructif. Voilà, ça pourrait être mon conseil.
Merci beaucoup Béatrice Delpech pour ces perspectives éclairantes sur l'éducation populaire au centre du projet politique de l'ESS. Nous espérons que cette discussion a été enrichissante pour nos auditeurs. Restez à l'écoute pour de futurs épisodes sur des sujets passionnants. Merci de nous avoir rejoints.
Merci à vous.